Vous êtes sur RTL.
C'est à suivre cette semaine.
Et oui, et parmi les événements à suivre cette semaine, eh bien, il y aura mardi prochain, après-demain, une étape décisive dans le processus électoral américain et la transition Trump-Biden qui semble quand même peu à peu se décider malgré toute la mauvaise volonté de Donald Trump. Mais voilà, désormais, lui-même reconnaît qu'il va quitter la Maison-Blanche. Cette semaine d'ailleurs, lors de l'arbre de Noël de la Maison-Blanche, il a remercié le personnel et donné rendez-vous dans 4 ans. On retrouve donc à New York pour RTL, Lionel Gendron. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Donc à partir de mardi, il n'y aura plus de retour en arrière possible, c'est ça ?
Oui, en effet, après-demain, ce sera la fin des recours et de toute contestation. Tous les États doivent avoir fini leur comptage ou recomptage quand ils ont été demandés. Alors, pourquoi le 8 décembre ? Parce qu'il est prévu une marge de sécurité de 6 jours avant le vote des grands électeurs qui aura lieu le 14 décembre. Et s'il y avait encore des litiges, eh bien, c'est le Congrès qui se mêlerait des affaires des États et ces derniers veulent absolument éviter ça. Mardi, donc, chaque État inscrira sur un papier le nombre de voix recueillies par les candidats et 6 jours plus tard, le 14 décembre, les 538 grands électeurs se retrouveront dans leurs états respectifs pour voter. Une parenthèse sur ces grands électeurs, leur nombre dépend de la population des états. Le Montana en a 3, la Californie 55. C'est comme le nombre d'élus au Congrès, mais attention, ce ne sont pas les membres du Sénat ou de la Chambre des représentants. Ce sont des personnes souvent inconnues du grand public, élus locaux ou militants associatifs. Ils sont désignés par les partis politiques avant l'élection.
Alors Lionel, est-ce qu'il peut y avoir des surprises ? Est-ce que les grands électeurs sont forcément, quoi qu'il arrive, loyaux ?
Alors 2/3 des États les obligent à respecter leur vote et la Cour suprême d'ailleurs leur a donné raison, mais les autres États n'ont pas inscrit cette obligation dans la loi. Par exemple, en 2016, 8 grands électeurs démocrates n'ont pas voté pour Hillary Clinton, mais ils n'ont pas non plus voté pour Donald Trump. Sur leur bulletin, ils ont par exemple mis le nom de Bernie Sanders. S'il y a désobéissance, c'est plus par rapport à la personnalité du candidat, pas pour faire gagner l'adversaire. Il n'y aura donc pas de surprise quand le 6 janvier, les élus de la Chambre des représentants et du Sénat, réunis en Congrès, dépouilleront les votes des grands électeurs. Celui qui dépassera 270 voix aura gagné, et là, ce sera Joe Biden.
Mais vous avez dit que ça, ce sera le 6 janvier. L'investiture aura lieu le 20 janvier. Qu'est-ce qui se passe entre-temps ?
En attendant, c'est ce qu'on appelle la période des canards boiteux, un sas un peu étrange. Le président élu prépare le terrain, forme son gouvernement, est briefé par les services de renseignement sur les dossiers sensibles. Le président en place, lui, gère les affaires courantes. La tradition veut qu'après l'élection, le candidat vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter et faciliter la transition. Donald Trump, qui conteste les résultats, ne l'a pas fait. Il ne le fera sans doute jamais. Il n'est même pas certain qu'il assiste à la cérémonie d'investiture.
Ça, ce serait sans doute une première. Merci beaucoup, Lionel Gendron, à New York pour RTL. Lionel, correspondant d'RTL aux États-Unis. Ce sera donc à suivre après-demain, mardi. Mais la veille, donc demain, lundi, on suivra également le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de foot au Qatar, qui se déroulera dans 2 ans. Mondial inédit qui n'a cessé de faire polémique. Les conditions de son attribution, les travaux, l'empreinte carbone, la diplomatie par le sport du Qatar. Eh bien, on en parle dans un instant avec un spécialiste de géopolitique, du sport et du foot, Pascal Boniface. À tout de suite.
C'est à suivre cette semaine.
Ça aussi, ce sera à suivre cette semaine, notamment demain, le tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On sait d'ores et déjà que la France sera tête de série, qu'elle sera dans un groupe de 5 dont les 2 premiers seront qualifiés. Et on sait même qu'en cas de catastrophe, grâce à la Ligue des Nations, eh bien les Bleus bénéficieraient même d'un match de barrage. Donc, sur le plan sportif, pas trop d'angoisse à avoir pour les joueurs de Didier Deschamps. Les Bleus devraient être de la partie. Mais ce mondial au Qatar dépasse amplement le domaine purement sportif. Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir.
Directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Géopolitologue du sport, entre autres, et du football notamment. Alors, ce tirage au sort de demain, c'est un peu le coup d'envoi de cette Coupe du Monde très atypique. Tout d'abord parce qu'elle va se dérouler pour la première fois au Moyen-Orient.
Oui, pour la première fois au Moyen-Orient, c'est la première fois qu'un pays musulman va héberger la Coupe du Monde. Elle était déjà allée en Asie, notamment en 2002, aux États-Unis en 94, ensuite l'Afrique, le continent africain avec l'Afrique du Sud en 2010. Et ils ont que dans sa volonté de conquérir le monde, la FIFA s'est dit, ce n'est jamais survenu dans un pays arabe ou musulman. Cette fois-ci, c'est leur tour.
Oui, mais alors pourquoi le Qatar, alors que, par exemple, on le sait, le Maroc a été candidat pour 94, 98, 2006, il l'était même à l'origine pour 2026. On a l'impression que le Maroc, il peut être candidat tant qu'il veut, il n'aura jamais la Coupe du Monde.
Bah effectivement, le Maroc a subi de nombreuses défaites alors que c'est un pays de football, mais il n'était pas candidat contre le Qatar pour 2022, d'où la désignation du Qatar, alors que le Maroc avait effectivement été plusieurs fois battu, notamment de façon assez cruelle pour lui, contre une candidature des États-Unis, avec un Donald Trump qui a fait pression sur toutes les fédérations pour qu'elles votent pour les États-Unis, faute de quoi il y aura des sanctions américaines.
Alors, on voit bien que pour la désignation du pays hôte de la Coupe du Monde, il y a de la politique, il y a beaucoup de politique. La désignation du Qatar, à l'époque, avait été une relative surprise. Elle a donné lieu notamment à de nombreux soupçons de corruption.
Oui, effectivement, et c'est une surprise que le Qatar, c'est un petit pays qui mise beaucoup sur la diplomatie sportive, mais qui n'a pas une tradition de football, qui n'a pas une population importante. Alors, il y a eu des accusations de corruption, comme d'ailleurs à chaque fois qu'il y a désignation. Il y a eu aussi pour l'Allemagne en 2006, pour l'Afrique du Sud, c'est toujours fréquent. Pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve. Il y a eu beaucoup d'accusations, mais aucune preuve. Il n'y a pas de smoking gun de 10 ans. Voilà, il a été prouvé que le Qatar a tricher, mais il y a beaucoup de rumeurs parce que le Qatar est effectivement un pays atypique par rapport aux pays qui précédemment ont hébergé la Coupe du Monde.
Une Coupe du Monde qui se déroulera en novembre-décembre, ça veut dire qu'il a fallu que tout le football mondial s'adapte à une Coupe du Monde hivernale.
Oui, effectivement, mais ça fera peut-être date parce que de plus en plus, le calendrier des compétitions sportives est remis en cause. Auparavant, il y avait la coupure estivale parce que les ouvriers étaient en congé payé et que si vous supportez Sochaux et que vous êtes à l'usine de Peugeot, vous n'êtes pas là. Et là, de plus en plus, on se dit quand même, aller au stade en décembre, janvier, c'est pas très agréable, alors que c'est tellement sympa d'y aller en juillet, août. Et donc, il est possible qu'à terme, il y ait une évolution des calendriers. Là, on l'a fait. Le Qatar voulait un calendrier normal, on peut climatiser les stades, mais la FIFA a préféré qu'elle se déroule en hiver, d'où l'inversion des calendriers.
Pourquoi le sport en général et cette Coupe du Monde en particulier sont si importants pour le Qatar? Alors on sait que le Qatar a investi au Paris Saint-Germain des sommes très importantes, mais pourquoi c'est si important pour eux?
Parce qu'avant il n'était pas connu, avant qu'il investisse le Paris Saint-Germain, qui connaissait le Qatar en France? Avant qu'il ne reçoive la Coupe du Monde, qui connaissait le Qatar dans le monde? Le Qatar a investi sur le sport, comme sur Al Jazeera, pour être un point sur la carte. C'est un tout petit pays avec une faible population, avec un voisin assez imposant, l'Arabie Saoudite. Et les Qataris se sont dit, comment on peut exister sur la carte du monde? Comment on peut être connu? Alors du coup, ils ont aussi des critiques, parce que quand ils étaient moins connus, il y avait moins de critiques. Mais miser sur le sport, c'est une façon d'exister, d'être reconnu d'au niveau international, parce que le sport, c'est certainement ce qui amène le plus de visibilité. Donc il y a une diplomatie sportive du Qatar qui est extrêmement vive.
C'est la diplomatie par le sport.
Voilà, c'est exister, c'est un moyen de rayonner, un moyen de se faire connaître, un moyen d'exercer une influence. Et les Qataris disent, le sport s'est connu de façon positive. Le Moyen-Orient, on l'associe au terrorisme, aux troubles, etc. En misant sur le sport, on donne un visage plus ouvert, plus sympathique, plus fraternel, plus universel. Effectivement, la Coupe du Monde, c'est l'accueil. Et là, il faudra que le Qatar s'adapte. Il faudra qu'ils acceptent que l'on puisse boire de la bière. Il faudra qu'ils acceptent des supporters venant du monde entier, parce qu'on ne comprendrait pas que ça puisse se faire autrement. Et le Qatar organise la Coupe du Monde pour faire sa publicité. Et donc, il faut aussi tenir ces échéances-là, comme la Russie l'a fait pour la Coupe du Monde 2018.
Mais surtout qu'on dit et qu'on soupçonne aussi le Qatar d'avoir, par rapport à l'islamisme et à certains mouvements islamistes, une forme de proximité.
Oui, le Qatar est relativement proche des frères musulmans. Ils ont des relations avec les frères musulmans, mouvement qui est interdit en Arabie Saoudite, qui est interdit dans les Émirats Arabes Unis, d'où les querelles entre ces pays qui sont très vives. Effectivement, le Qatar a aidé également la bande de Gaza et le Hamas, donc ce qui a valu des critiques, il le dit très, très ouvertement, mais le Qatar ne finance pas le terrorisme. Les frères musulmans sont un mouvement radical, mais qui n'est pas terroriste.
Alors, on est à 2 ans de cette Coupe du Monde. Est-ce que l'on sait d'ores et déjà si tout sera en ordre et si les stades, notamment, seront prêts?
Oui, ça, les stades, ils sont déjà prêts. Le Qatar ne manque pas de moyens moyens. Et donc, tout a été mis en œuvre pour que les stades soient prêts. Ensuite, il faudra peut-être en déconstruire une partie pour les envoyer dans d'autres pays en termes d'aide au développement. Mais tout sera prêt. Le Qatar a supprimé aussi quelque chose qui était l'objet de critiques très vives. C'est le kafala. C'est qu'un travailleur immigré devait donner son passeport en arrivant. Toutes les ONG ont protesté. Et finalement, le fait d'organiser la Coupe du Monde a servi de levier pour mettre fin à ce système. On a beaucoup parlé de la situation des travailleurs étrangers au Qatar, qui est à peu près comparable à celle de tous les pays du Golfe, voire de Hong Kong d'ailleurs, ou de Singapour. Mais le fait de construire des stades a été beaucoup plus visible, parce que finalement, le sport, c'est visible, avec le bon et les mauvais côtés. Et donc, il y a aussi beaucoup plus de critiques qui sont adressées, parce que le Qatar, finalement, est visible et a créé aussi quelques jalousies auprès de ses voisins saoudiens.
Parmi les critiques qui sont exprimées, celle sur la sécurité, sur les chantiers, 3000 décès au moins enregistrés. Comment ça s'explique ?
C'est que, effectivement, il y a des conditions de travail que les syndicats ont dénoncées, avec une chaleur qui est très forte au Qatar. Et donc, les règles de sécurité ont dû être changées, des pressions ont été faites. Alors, le nombre de morts est sujet à caution, parce qu'il y a des différentes évaluations. Mais effectivement, les chantiers de BTP sont dangereux, et que les conditions de chaleur, notamment l'été au Qatar, sont étouffantes. Et donc, les syndicats et les ONG, notamment Amnesty, Human Rights Watch, ont fait pression pour que l'on modifie les règles de travail sur ces chantiers.
Alors, les stades, justement, on ne jouera pas en plein été, on jouera en hiver, novembre, décembre. Pour autant, il fera quand même assez chaud. Et ces stades, ils seront climatisés ?
Non, ils pourraient l'être, mais en novembre, décembre, la température est plus clémente.
25-30 ?
C'est finalement plutôt des bonnes températures
pour
jouer au football. Même moi, c'est plutôt un printemps agréable au côté européen. Donc effectivement, c'est la fournaise l'été. Là, on atteint des 50 degrés, donc ça aurait été injouable. En même temps, rappelez-vous, la Coupe du Monde 86 au Mexique, en altitude à plus de 2000 mètres. Le match mythique France-Brésil, le quart de finale, il s'est joué dans une chaleur étouffante. Et c'est resté dans les mémoires collectives l'un des plus beaux matchs des différentes Coupes du Monde, puisque la légende veut que le ballon ne soit jamais sorti du terrain.
Mais le regard que vous portez à la fois en tant que géopolitologue et en tant que passionné de football, Pascal Boniface, c'est que finalement les polémiques sont derrière nous, et que cette Coupe du Monde au Qatar va se dérouler normalement aussi bien, entre guillemets, que toutes les autres.
Alors je dirais non et oui. Les polémiques existeront jusqu'au jour du coup d'envoi. Elles dureront pendant le coup d'envoi, puisque comme le Qatar est contesté par ses voisins, est contesté par ses pays, par d'autres pays, mais jusqu'au bout, il y aura une contestation. Et par contre, je pense que la compétition se passera très bien.
Et est-ce qu'il faut imaginer que cette Coupe du Monde va faire bouger les lignes au sein même du Qatar ? Je pense à la place des femmes, par exemple, ou à au regard du rôle de l'islam sur la société.
C'est une ouverture. Le Qatar va recevoir le monde entier. Le monde entier va regarder le Qatar. Et le rôle des femmes au Qatar est différent qu'en Arabie Saoudite. Ce sont deux pays wahhabites, mais c'est pas du tout. La mère de l'actuel émir a joué un rôle important. Il y a une fondation pour les femmes. Donc c'est une société wahhabite, mais qui est quand même beaucoup moins étouffante que ne l'est l'Arabie Saoudite.
Donc cette Coupe du Monde, selon vous, elle se présente sous de bons auspices ?
Oui, il aurait pu mieux se passer si les matchs avaient été partagés dans l'ensemble des pays du Golfe, s'il n'y avait pas cette brouille, plus qu'une brouille, cette rivalité très vive entre le Qatar d'un côté, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Platini voulait que ça soit la Coupe du Monde organisée par le Qatar, mais avec des matchs un peu dans tout le Golfe arabo-persique, dans tous les pays arabes en tous les cas. Ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce qu'il y aura une réconciliation entre ses voisins d'ici là ? On peut le souhaiter. Il faudra voir si l'Arabie Saoudite se qualifie, et aussi effectivement. Donc il y a aussi beaucoup d'inconnus géopolitiques, et on sait que le tirage au sort est très moqueur parfois, et assez espiègle. Et donc on va voir quels seront les pays qualifiés et quels seront les poules issues de ces pays qualifiés.
Alors les pays qualifiés, on n'en connaît qu'un, c'est le Qatar.
Pour l'instant.
Puisque désormais le vainqueur en titre n'est pas qualifié directement, mais comme je le disais
en
annonçant cet entretien, ça se présente bien pour les Bleus. Merci beaucoup Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, merci. Il est 18h48, ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause. Et puis dans un instant, on allumera l'autoradio et on sautera sur l'occasion.